L'association Educachou présente votre émission sociale de proximité Babaco sur votre radio. Babaco vous accompagne dans votre quotidien à la découverte des initiatives et des actions solidaires dans les quartiers et les villes de La Réunion. Babaco se fait l'écho de vos projets, démarches et événements. Exprimez vos opinions, partagez vos doléances. Vous avez la parole avec Babaco. Vous êtes à l'honneur avec Babaco.
Auditeurs, amis qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Vous êtes dans l'émission Babaco, votre émission sociale de proximité qui donne la parole. Aujourd'hui, l'émission Babaco se trouve au tampon. Alors, bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci de recevoir notre émission Babaco chez vous. Alors, où sommes-nous ici, monsieur? Je suis avec monsieur Renville, Judicael du tampon. Alors, où sommes-nous ici?
Ici, nous sommes dans un nouveau complexe qu'on a mis en place avec des amis et des collègues. Donc, on est dans un restaurant, cave à vin et magasin de prêt-à-porter.
Restaurant, cave à vin, magasin de prêt-à-porter. Donc, trois magasins en un.
C'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir un seul local et trois commerces différents dans ce même local.
D'accord. Alors, vous, monsieur Renville, on va parler principalement aujourd'hui de vous. Quel est le projet que vous avez monté, vous, dans ces lieux?
Alors, le projet, c'est de monter une cave à vin qui soit attenante au restaurant pour pouvoir proposer justement différents choix de vin aux clients du restaurant, mais fonctionner également comme une cave classique, donc à emporter, que ce soit vin, champagne, bière, spiritueux, fromage ou charcuterie, voilà. Donc comme une cave classique à emporter ou en dégustation sur place côté restaurant.
Alors, le nom de votre entreprise?
Alors la société c'est CQFD, pour ce qu'il faut déguster, et la cave s'appelle l'Embuscave.
D'accord, alors l'Embuscave et le CQFD, ce qu'il faut déguster. Alors déjà, comment on devient chef d'entreprise?
Alors ça fait un petit moment déjà que je fais ce métier, enfin ça fait un petit moment, c'est une reconversion. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que j'étais dans la restauration. Le Covid étant passé par là, on a dû fermer un restaurant qu'on avait en commun avec un ami. Et la reconversion a fait que ben voilà, je me suis dirigé beaucoup plus sur le vin plutôt que sur la nourriture par rapport aux horaires, par rapport à la passion du vin et mon ancien passé de commercial.
Sur une ville, Judicael, au travers de CQFD, en fait c'est un nouveau métier que vous avez commencé. Pourquoi ce changement? Pourquoi cette reconversion?
Parce que je suis passionné par le vin, notamment par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir dans l'ancien métier de restaurateur. Et pour le coup, le fait d'avoir fermé l'ancien restaurant, c'était une ouverture pour moi pour pouvoir commencer autre chose. Donc pourquoi pas le vin, c'est quelque chose qui m'intéressait. Ça touche à énormément de sujets en même temps, que ce soit l'agriculture, la géologie, la météo, le raisin, ça touche énormément de branches. Et du coup, c'est un métier très passionnant, très prenant certes, mais très passionnant. Et j'aime faire découvrir ces choses-là aux clients.
Alors, vous vous êtes installé sur le tampon. Pourquoi cette destination spécialement? Pourquoi cet endroit?
Alors, le tampon, parce que je suis originaire du tampon. J'ai travaillé beaucoup à Saint-Pierre. Pour le coup, un petit retour aux sources, c'est pas plus mal. C'est vraiment mieux, même d'ailleurs. Et j'ai eu l'opportunité de le faire grâce à ma collègue et amie, Elodie, responsable de la case d'Audi, le restaurant justement attenant à la cave.
Oui, alors, Judicael, alors, tu t'es installé au tampon pour ton travail. Pourquoi cet endroit?
Alors, parce que je suis originaire du tampon et j'ai eu l'opportunité d'y revenir par rapport à mon amie et collègue Elodie de la case d'Audie qui avait ce local-là qui était beaucoup trop grand pour elle. Donc, elle m'a fait une proposition que je n'ai pas ratée et que j'ai acceptée de grande vie, de vive voix d'ailleurs. Et du coup, retour au tampon, retour aux sources parce que à la base, je viens du tampon.
D'accord, à la base, vous venez du tampon. Alors, pour aborder un petit peu le concept dans lequel vous évoluez, ici, nous sommes dans une cave à vin. C'est bien ça. Alors, c'est quoi une cave à vin?
Alors, une cave à vin, c'est assez spécial. Hein, c'est un magasin spécialisé dans la vente de vin, dans la vente d'alcool en soi. Après, j'ai pas énormément de références, mais tous les vins qui sont là que je propose, c'est des vins que je connais sur le bout des doigts. Et par rapport à ça, moi, je pourrais faire la meilleure sélection possible pour servir le client, suivant son envie.
Pour les auditeurs, quand on parle en général, de quoi parlons-nous?
À la base, c'est un produit de terroir. Un vin, j'ai que du vin français sur la cave. Peut-être plus tard du vin italien ou du vin sud-africain, mais pour l'instant, uniquement du vin français. Ça vient du terroir, c'est ce qu'on fait le mieux, je pense, en France, avec les produits artisanaux. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Il y a énormément de références, il y a énormément de choses à découvrir en France, déjà, juste en France. Donc venez faire un petit tour. Venez goûter le vin. Si vous ne l'aimez pas, je vais vous montrer que vous ne le savez pas encore, mais vous aimez ça. Venez faire un petit tour.
Alors effectivement, pour nos auditeurs, aujourd'hui nous faisons une émission spéciale Babaco sur le vin en général, avec le projet de Monsieur Mainville. Est-ce qu'il y a des marques de vin ou est-ce qu'il y a des goûts particuliers quand on parle de vin? Qu'est-ce qu'on peut dire du vin en général?
Alors, on ne parle pas de marque pour les vins, mais plutôt des domaines. Il y a énormément de terroirs en France, sur les différentes régions possibles. Le vin sera forcément différent sur le terroir du Bordeaux, ou sur le Languedoc, ou sur le Côte-du-Rhône, ou sur la Bourgogne, peu importe. À chaque fois, on aura des vins différents par rapport et au climat, par rapport au sol, par rapport à la variété de raisins, par rapport au vigneron, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut mettre en avant. Il y a énormément de paramètres qui entrent en jeu. Le vin, c'est très compliqué et très simple à la fois. Mais il existe une panoplie énorme de saveurs de vin.
Alors, si on prend la fabrication d'un vin simple, traditionnel, comment ça se passe?
Alors, la fabrication la plus traditionnelle qui soit, vous avez déjà les vendanges, donc on récolte le vin, que ce soit mécanique ou manuel, peu importe, on n'ira pas dans les détails trop techniques pour cette fois. Ensuite, on aura les grappages, donc on enlève le raisin de la grappe. Ensuite, vous aurez différentes manières si vous voulez du vin rouge, du vin blanc ou du vin rosé. Donc pour le vin rouge, on presse le raisin, on le fait macérer avec sa peau et ou avec les grappes suivant le type de vin. La peau, les grains, c'est ce qui donnera les tanins au vin rouge. Plus on laissera longtemps, plus la macération se fera. Donc il faut rajouter des petites liqueurs de fermentation sur certains vins également. Ensuite, par rapport à ça, donc le pressage, ensuite on filtre tout ça, on met en cuve. En cuve inox principalement, pour les vins jeunes notamment, on laisse la macération se faire. Quand le taux d'alcool est atteint, on le refiltre et on met ou en fût inox pour le faire, pour en embouteiller ensuite, ou en fût de chêne pour le faire vieillir. En général, entre 3, 6, 12 mois pour les vins les plus basiques, entre guillemets, les plus traditionnels, et pour beaucoup plus longtemps pour les grandes cuvées.
Ça veut dire que quand on fait vieillir le vin, quel est le but du vieillissement réel?
C'est d'atténuer les tanins du vin et donner du goût par rapport au fût. Alors, il y a beaucoup de techniques qui se font maintenant. On ne fait plus que par le fût de bois ou par les fûts inox. On revient sur les anciennes méthodes, donc en terre cuite, les moules en terre cuite, en amphore, en cuve béton également. Donc, on revient un petit peu aux méthodes ancestrales. Et c'est pas plus mal pour le coup, pour utiliser le moins de produits possible, le moins de sulfites possible pour la conservation du vin.
Pour nous parler du sol, est-ce que la qualité du vin dépend aussi de l'endroit ou la façon dont il est planté, dont les raisins sont plantés?
Exactement. Pour un exemple, on va donner un exemple le plus commun pour la Bourgogne, par exemple.
Non, pour parler d'un vin, le Bordeaux par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin?
Alors sur le Bordeaux, vous avez plusieurs régions entre guillemets sur le Bordeaux. Vous avez plusieurs terroirs. Vous avez toute la côte côté mer du coup entre la Gironde où vous aurez tous les Médociens. Donc le Pauillac, les Saint-Julien et tous les Médocs en général.
Médoc, ça veut dire quoi?
Médoc c'est une région.
Médoc, une région de métropole.
De Bordeaux, c'est ça, exactement.
Alors, le vin de Bordeaux, ça veut dire que ce sont des vins qui viennent de la région de Bordeaux, en fait. C'est pour ça qu'on dit vin de Bordeaux?
Alors, vous avez plusieurs appellations sur le vin de Bordeaux. Vous avez l'appellation Bordeaux, vous avez l'appellation Bordeaux supérieur. Tout ça, c'est des appellations contrôlées. Donc, pour remplir ces différentes appellations, on a différents cahiers des charges. Il faut les respecter scrupuleusement pour avoir droit à ces appellations. Si vous ne respectez pas ces appellations, autrement, vous aurez l'appellation vin de France, qui sera commune à tous les vins qui viennent de France avec aucune région en particulier.
Alors, ça veut dire que les vins qui n'ont pas d'appellation particulière, on les appelle vins de France, et les vins qui ont une appellation contrôlée avec un cahier des charges, un genre de label, on peut dire en fait.
C'est exactement ça.
Donc, c'est les vins d'appellation contrôlée. En fait, c'est une grande marque, une grande reconnaissance, on peut dire ça.
C'est une marque, c'est justement ça, c'est justement pour ça que les vins s'appellent, qu'il y ait des AOP. Les AOP, alors c'est tout sur les grands crus en général, sur un Pauillac ou un Saint-Julien ou un Saint-Émilion ou un Graves. Pour avoir cette appellation-là, il est obligé de respecter un cahier des charges qui est soumis à réglementation, donc il doit utiliser tel ou tel raisin, il doit utiliser tel ou tel produit au maximum, il doit être passé tel ou tel temps en fût pour avoir cette appellation.
Votre émission sociale de proximité Babaco revient juste après la pause.
Thank you. ça veut dire que les vins qui n'ont pas de d'appellation particulière, on les appelle vins de France, et les vins qui ont une appellation contrôlée avec un cahier des charges, un genre de label, on peut dire, en fait.
C'est exactement ça.
Donc c'est les vins d'appellation contrôlée. En fait, c'est une grande marque, une grande reconnaissance, on peut dire ça.
C'est une marque, c'est justement ça, c'est justement pour ça que les vins s'appellent qui est des AOP. Les AOP, alors c'est tout sur les grands crus en général, sur un Pauillac ou un Saint-Julien ou un Saint-Émilion ou un Grave. Pour avoir cette appellation-là, il est obligé de respecter un cahier des charges qui est soumis à réglementation, donc il doit utiliser tel ou tel raisin, il doit utiliser tel ou tel produit au maximum, il doit être passé tel ou tel temps en fût pour avoir cette appellation. Pas, il aura le droit à l'appellation Bordeaux supérieur pour les petits vins ou juste Bordeaux pour les très petits vins. S'il n'a pas l'appellation, s'il ne respecte pas le cahier des charges, donc l'appellation vin de France prend sa place. En soi, l'appellation vin de France commence à refaire un peu surface maintenant en France parce que les vignerons ne veulent plus forcément respecter le cahier des charges des grandes appellations et faire ce qu'on appelle des vins de vignerons, des vins qu'ils aiment. Donc, ils prennent le raisin qu'ils veulent, ils font les jus comme ils veulent. Ils mettent le taux de sulfite qu'ils veulent, en général très très peu de sulfite. Et pour le coup, c'est pas des grands vins, ce ne sont pas des bouteilles qui vont atteindre des sommes astronomiques, mais c'est des petits vins de copains très agréables, très accessibles au niveau tarif, et ils n'ont plus aucune appellation. Donc on peut très bien trouver un vin de France qui vient de Bordeaux, ou du Languedoc, du Côte-du-Rhône, de la Saumure, peu importe. Vin de France, ça englobe tout ce que le vigneron ne veut pas respecter, pour le coup, un vin de vigneron.
Quand vos clients viennent dans votre cave, quel genre de conseils vous leur donnez? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous exactement quand ils viennent chercher un vin ici?
Alors, ce qu'ils attendent de moi, je ne pense pas qu'ils attendent de moi que je leur saoule un petit peu avec tous ces termes techniques. Ils n'ont pas forcément ni le vocabulaire et ni l'envie de parler de tout ça. Ils savent juste ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Voilà, ils veulent des vins plus ou moins puissants, plus ou moins fruités, plus ou moins sucrés pour les blancs, pour accompagner tel ou tel plat, une grillade, un curry, un civet. Ou ils vont boire ça dans les hauts avec Agueti Gramoun, par exemple. Donc, Agueti Gramoun, en général, je sais que c'est des personnes qui aiment les vins plutôt costauds. Donc, par rapport à ça, par rapport à ce qu'ils me disent avec le maximum d'informations que j'ai, je leur dirige vers telle ou telle bouteille.
En fait, les clients, quand ils viennent, ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent. En fait, tu vas leur conseiller pour trouver une bouteille précise ou bien c'est un conseil global et eux, ils font leur choix après.
Alors, dans l'ensemble, quand ils ont une idée de ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent une appellation précise. Après, par rapport aux informations que eux me donnent, j'essaie de les diriger vers la meilleure bouteille, vers le meilleur choix possible qui l'opère le plus, finalement. Voilà. Mon travail, c'est ça. C'est de cerner les gens pour leur proposer la bouteille la plus adéquate de meilleur goût pour eux.
À La Réunion, est-ce que les gens, les Réunionnais, ils sont friands de vin? Est-ce qu'ils aiment le vin spécialement, plus qu'en métropole, on pourrait dire?
Alors, plus qu'en métropole, non, parce que ça fait bien plus longtemps que nous qu'ils ont du vin, bien évidemment. En soi, le vin s'est démocratisé réellement. La Réunion, il y a quoi? Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, hein. C'est très très récent. Mais créole, oui, ici, ils commencent à s'y connaître réellement. Ils présentent vraiment un vrai intérêt pour le vin et ils savent, en général, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils ne veulent pas, surtout. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas et puis ils commencent à s'y mettre. Tout le monde commence à s'y connaître un peu et c'est très très bien. Il faut développer encore cette faculté de trouver le bon vin justement pour plaire au plus dans la famille, avec un curry par exemple.
Effectivement, c'est pour ça aussi que notre émission donne la parole à tous dans les quartiers, dans les villes, justement pour parler de tous les sujets et amener un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de choses dans la vie des gens pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils boivent, tout ça, etc. Mais pourquoi ça a tardé autant à se démocratiser le vin ici à La Réunion?
Alors moi je pense surtout par rapport aux taxes, et puis c'est des produits qui sont importés. Hein. À La Réunion, faut oublier qu'il y a 30 ans, allez, il y a 35-40 ans, le téléphone n'existait presque pas. Hein. On avait très très peu de voitures, on avait très très peu de moyens de déplacement, on avait beaucoup moins de boucheries, de charcuterie. Donc le vin c'était un luxe, c'était un luxe avant, un réel luxe, et là plus ça va, plus c'est accessible et les gens peuvent s'y...
Alors, vous nous parliez que le vin est souvent synonyme d'agriculture. L'agriculture, par rapport au pain, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, autant à La Réunion, nous, c'est des cannes, autant en métropole, c'est la vigne. Ici, c'est notre culture, là-bas, c'est pareil, c'est leur culture. Il y a les vignes, il y en a quasiment de partout.
Et... Alors, en métropole, c'est la vigne. Alors, comment on plante là-bas? Comment ça se passe pour la plantation de la vigne? de la vigne au, à la bouteille?
Alors, en général, les vignes, c'est un peu comme les champs de canne à Réunion, hein. C'est des héritages. Donc, on fait ça de père en fils, c'est de famille. De plus en plus, maintenant, on vend des domaines, on vend des vignes. Donc, il y a plus de gens qui s'y mettent. Mais en général, c'est de père en fils. Donc, c'est déjà bien ancré. En soi, les vignes, il faut qu'elles aient poussé déjà pour faire un peu de vin, hein. Idéalement, en 5 ans, pas avant 5 ans, on peut récolter du raisin qui sera bon à faire du vin.
Ça veut dire que dans les champs, on dit dans les champs de vignes, il faut qu'il y ait au moins 5 ans. Et après, c'est quoi? Il faut replanter ou bien une fois que c'est planté, une fois que c'est grandi, ben, ça donne régulièrement du raisin?
Alors pour le coup, ça donne tous les ans. Hein. Ça donne tous les ans le raisin. Il y a forcément un travail à faire en début d'année, en hiver. Il faut tout couper, préparer à la floraison et puis au bourgeonnement. Et pour l'été, qui poussera un peu plus justement avec le soleil. Pour les vendanges, en général, au mois de septembre, octobre. Mois d'août, septembre qui commence, mais en général septembre, octobre. Donc c'est sur un an. Le travail de la vigne, c'est sur un an. Une fois que la vigne a fini, donc c'est un retravail vieille, plus les saveurs sont concentrées dans le raisin.
Ça veut dire que les vignes qui ont été plantées bien avant les 5 ans vont avoir une saveur ou un goût particulièrement meilleur?
Ce sera beaucoup plus concentré, oui. D'où l'appellation sur certaines bouteilles vieille vigne. Quand on dit vieille vigne, en général, c'est du minimum 30 ans.
Et des vignes qui ont 30 ans d'existence?
C'est ça, exactement. C'est des vignes qui ont minimum 30 ans. Donc là, par rapport à ça, il faut que le vigneron fasse son travail en sachant que s'il veut garder ses vieilles vignes ou s'il veut les renouveler, nous replanter, sachant que pendant 3, 4, 5 ans, il n'aura pas forcément de récolte sur les vignes qu'il vient de planter.
Et alors, les planteurs de vignes, en fait, par rapport à leur champ, il peut y avoir des vignes qui sont plantées d'un certain âge, d'un certain temps, d'autres un peu plus loin, d'autres un peu plus vieux, etc. Il y a plusieurs plantations, plusieurs temps de plantation.
En général, sur une vigne, on essaie de garder le même cep, le même raisin, la même vigne, hein, la même plante, sur une tranchée. On essaie de faire plusieurs champs de plusieurs vignes différents, pour pas que ça influe sur la qualité du raisin.
Un même raisin sur une même tranchée, plusieurs champs sur un grand terrain, par exemple, c'est ça?
Sur plusieurs vignes. Donc, sur un chai, on appelle ça un chai. Donc, on mettra une ligne de vigne de n'importe quoi, par exemple, de Syrah. On peut faire une ligne de vigne de Syrah, une ligne de vigne de Grenache. Non, il faut faire un chai principalement de Syrah, puis un autre à côté principalement de Grenache. Une vigne.
Une vigne.
Ouais, le chai, c'est tout le champ.
En fait. D'accord. Le champ, on s'appelle le chai.
D'où le chai de Sylaos, d'ailleurs.
Le chai de Sylaos. Bah, alors, puisque vous parlez du Sylaos, comment peut-on qualifier le vin réunionnais, le vin de Sylaos par rapport au vin, vous qui vous connaissez en vin, le vin de Sylaos? Comment se fabriquer? C'est quoi le vin de Sylaos?
Alors, pour le coup, il y a plusieurs appellations de vin de Sylaos qui sont pas forcément contrôlées. Avec un vrai travail de vigneron qui a été fait en amont, on commence à faire du très bon vin, pour le coup, à La Réunion, que ce soit du vin blanc sec ou même du blanc moelleux, il y a un vrai travail derrière. Donc, comme en métropole, ça fonctionne par saison, il fait des vendanges manuelles. D'ailleurs, on est sur l'association La Petite École du Vin à Saint-Paul qui va faire les vendanges tous les ans. Donc là-dessus, on est sur une vraie appellation de vin de Sylaos, donc les chais de Sylaos. Tout ce qu'on retrouve sur le bon chemin vin de Sylaos, c'est pas réellement du vin, c'est du vin d'autres fruits en fait. C'est à peu près la même méthode, mais c'est plus une question de distillation que de macération pour le coup. Le vin de pêche, le vin de bibasse, tout ça, c'est pas réellement du vin en fait.
Alors, distillation pour nos auditeurs, ça veut dire quoi?
Distillation, si vous voulez, c'est du jus qu'on va faire fermenter et qu'on va distiller comme une huile pour obtenir de l'alcool. Donc je pense qu'il y a un peu de ça dans le vin de Sylaos qu'on retrouve sur le bord de chemin.
L'alcool qu'on trouve dans le vin vient du raisin, en fait.
Exactement. Ce n'est uniquement que du sucre qui macère et qui devient de l'alcool.
Ah, du sucre qui macère qui devient de l'alcool. D'accord.
En soi, l'alcool, ce n'est que ça. C'est du sucre. C'est du sucre qui a fermenté.
D'accord. Alors, par exemple, est-ce que la météo joue un rôle dans la qualité du pot final après?
Oui, bien évidemment. Plus il y a de soleil, plus le travail sera concentré. Plus il est concentré, plus il y a de sucre, plus il y a de sucre, plus il y a d'alcool. D'où le taux d'alcool la plus prône dans le Languedoc, plutôt qu'en Bourgogne ou que dans la Saumur, par exemple. Ou qu'en Alsace, peu importe. En Alsace, on sera plus sur des taux d'alcool beaucoup plus faibles, par climat, pour quoi climat plus continental, des hivers très froids, des étés chauds, mais surtout des hivers très très froids et très humides. Alors que dans le sud, ils seront un peu plus à l'abri. Il ferait beaucoup plus chaud, le climat est beaucoup plus doux, les hivers sont beaucoup plus doux, c'est un climat océanique, donc on a tout l'air marin qui revient, ça permet de concentrer un peu plus les sucres, donc des raisins beaucoup plus sucrés.
Alors, CQFD, ce qu'il faut déguster, on choisit ce nom d'entreprise.
Alors, ça fait un an et demi maintenant que la société est ouverte. je ne faisais pas uniquement du vin, je faisais un petit peu de traiteur également. Et pour ce qu'il faut déguster, parce que pour apprendre aux gens avec tel ou tel vin, ou qu'est-ce qu'il faut déguster avec tel ou tel plat, c'était surtout sur ce modèle-là.
C'est-à-dire que de votre passion du vin, de votre métier, alors on dit quoi, vigneron? Non, le vendeur.
Sommelier.
Le vendeur de vin s'appelle un sommelier. Pas un vigneron. Vigneron, c'est celui qui plante.
Le vigneron, c'est celui qui plante. Le caviste, c'est celui qui vend le vin. Le sommelier, c'est celui qui saura vous conseiller.
Donc,
vous êtes le vin avec tel ou tel plat.
Donc, vous êtes à la fois sommelier et caviste, en fait.
C'est exactement ça. Pour le coup, je me repose sur mon passé de restaurateur pour pouvoir proposer le meilleur conseil.
L'association Educachou vous a présenté votre émission sociale de proximité Babaco sur votre radio. Vous souhaitez participer à nos prochaines émissions? 06 93 53 05 10. 06 93 53 05 10. Plus d'infos sur babaco.fr et les réseaux sociaux. Vous êtes à l'honneur avec Babaco.